sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente et Lola Berthet, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Antoine Gomez. La gourmandise ce matin, c'est un méchant mot de Flaubert au sujet de Lamartine. Lamartine se crève, dit-on, je ne le pleure pas. Non, je n'ai aucune sympathie pour cet écrivain sans rythme, pour cet homme d'état sans initiative. C'est à lui que nous devons tous les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire, et lui que nous devons remercier de l'Empire, homme qui va aux médiocres et qui les aime. Docteur en littérature, notre apothicaire de l'âme enseigne la théorie de l'art contemporain à l'École européenne supérieure de l'image de Poitiers-Angoulême. Elle a consacré plusieurs travaux universitaires à l'analyse de l'œuvre d'Alix Cléo-Roubaud et a co-dirigé en 2014 le catalogue et la rétrospective consacrée à l'artiste à la BNF. Détective privée experte en filature de fantômes, notre invité publie la même année Une image peut-être vraie, enquête passionnante, délicate et sans résolution sur la vie et l'œuvre de la même Alix Cléo-Roubaud. Disséquant le monde d'un regard sensible et pénétrant, elle analyse avec pertinence les rapports entre texte et image, s'appuyant sur la littérature, l'histoire de l'art et l'esthétique. En janvier dernier, elle publie au Seuil un impressionnant roman intitulé « Voir de ses propres yeux », majestueuse adresse d'une narratrice à ses défunts. Notre apothicaire est hantée par les images et les fantômes. D'ailleurs, quand je la regarde, je vois celui de Roland Barthes. Hélène Giannichini, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Roland Barthes. Hélène Giannichini, vous êtes l'auteur de deux livres. Ils sont tous les deux traversés par la mort. Quel est votre rapport à la mélancolie, sachant qu'elle est forcément liée à la mort, finalement?
Ben, je pense que j'ai un rapport de plus en plus privé à la mélancolie. Plus je vieillis, disons, plus j'ai l'impression que j'ai besoin d'être tranquille pour être mélancolique. Ou en tout cas que ma mélancolie n'est plus du tout adressée. Avant, j'avais peut-être besoin qu'on me console ou de faire la démonstration de cette mélancolie. Maintenant, ça me concerne, et j'ai même envie de dire, plus je suis tranquille avec ma mélancolie, plus elle est effective. Donc, je suis dans la vie quelqu'un qui n'a pas du tout l'air mélancolique, et pourtant, c'est vrai, vous l'avez dit, je crois que j'écris dans un endroit qui est éminemment mélancolique. Mais c'est un endroit strictement privé.
Vous avez l'air d'être plutôt dans un bon compagnonnage avec cette mélancolie, Hélène Giannichini. Vous ne semblez pas avoir envie de la fuir. Ça a toujours été le cas ?
Non, il y a des moments où elle a pu être terrassante, cette mélancolie, mais j'ai appris à vivre avec, à la dompter. C'est quelque chose que dit Alix Cléo-Roubaud à propos des démons. Les démons, il faut les dompter. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de les tuer ou de s'en débarrasser. Enfin, c'est un leurre, c'est impossible. Il faut vivre en bonne intelligence avec eux et je crois que j'y arrive. J'y arrive aussi parce que finalement, les endroits qui ne sont qu'à nous sont rares. Et donc, puisque c'est l'endroit où ma mélancolie peut s'exprimer, c'est un territoire intense mais restreint, disons.
Vous vous interrogez depuis de nombreuses années, Hélène Giannichini, sur le fait de pouvoir vivre sereinement avec ses morts. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre roman « Voir de ses propres yeux », peut-on vivre avec ses morts J'entends sereinement. Avez-vous trouvé la réponse ?
Je crois que c'est un travail, en fait, et qu'il faut sans cesse se reprendre ou se surveiller. Mais j'ai envie d'y travailler. J'étais pas d'accord pour l'alternative qui était soit une forme d'oubli, c'est-à-dire qu'on ça passe, le deuil se termine, on retourne à notre vie et tout va bien, soit une forme de dolorisme, en fait, du deuil, où sans cesse on a mal et on fait la démonstration de cette douleur. Parce que l'un comme l'autre, ce sont des postures qui me semblent un peu manquer de justesse. Et donc j'essaye, mais je dois sans cesse me reprendre, en fait. Enfin, me surveiller, disons, d'être juste, c'est-à-dire de laisser dans ma vie de la place à mes morts, de pouvoir les nommer, penser à eux, discuter parfois. Enfin, souvent je leur parle, même toute seule. Bon, ça peut être un peu bizarre, mais ça m'arrive.
À voix haute.
À voix haute, mais ça peut me prendre dans le métro, quoi, par exemple. Bon, du coup, on a l'air bizarre.
mais c'est vous que je vois souvent dans le métro parler à voix haute.
Voilà. Enchantée. Oui. Mais sans non plus... tout le temps être dans une forme de douleur. Je pense qu'on peut être parfois, pas tout le temps, joyeusement avec ses morts. Je pense que c'est aussi plein de malice et de clin d'œil.
Vous écrivez, Hélène Giannichini, « Oui, le bonheur est empli du deuil. Il est féroce, insensé et troue la monotonie de la peine. Il vient par le corps. J'ai envie de vivre, d'aimer, de jouir, de penser, de rire. Je vous dois cette intensité et je vous la destine. » C'est donc grâce à cette sourdine qu'on a en permanence de la musique de ses morts, puisque chacun a ses morts, que finalement on a cette intensité de vivre.
Oui, et ce passage-là, il est aussi écrit à un moment, au début d'un deuil, en fait. Et j'avais envie d'essayer de dire cette transe très étrange qui m'a saisie, moi, parfois, par exemple, après des obsèques. On a l'impression que c'est le moment où on va lâcher, on a tenu parce qu'on a organisé beaucoup de choses, ça dépend, mais ça pouvait être mon cas, et que c'est le moment où tout va s'écrouler, et en fait, c'est le moment où il y a une force vitale extrêmement forte qui moi m'a submergée, et on a envie de sortir toute la nuit et de parler toute la nuit et d'aimer encore plus les gens qu'on aime. Et c'est presque un peu indécent parce qu'on n'a pas beaucoup de récits de ça, d'être soudain très heureux, en fait. Et pourtant, c'est un des moments les plus troublants et donc les plus magnifiques du deuil pour moi, cette joie.
Oui. Mais je vous rejoins pour avoir pas mal de fantômes autour là pendant que je vous parle. Taisez-vous. Eh bien, c'est vrai que les enterrements sont finalement peut-être un des endroits les plus doux parce qu'on est entouré, il y a quelque chose de collectif où d'un coup l'humanité se rejoint à l'essentiel finalement.
Oui, et il y a aussi, ça dépend comment les enterrements ou les obsèques se passent, mais le récit d'une vie qui peut donner, en fonction de la vie de la personne, qui peut donner aussi des effets assez extraordinaires.
Voire comiques.
Il peut y avoir des fous rires aussi, oui. Évidemment. Mais on va réunir des gens qui ont aimé cette personne ou qui vont en parler, et ça donne l'impression, moi ça m'a parfois donné l'impression que la vie était immense, que on pouvait faire tout ce qu'on voulait, qu'on pouvait se réinventer, bon pas à chaque fois, mais ça peut aussi être l'impression que ça donne, en fait, des obsèques, quand elles sont réussies, peut-être.
Remède à la mélancolie, les enterrements. Chers auditeurs, voici le sommaire. Vous allez convoquer Hélène Giannichini dans quelques instants, Alix Cléo Roubaud, Jean Eustache, Jacques Roubaud, Paul Preciado, Clarice Lispector, une sculpture en marbre pentélique, Léonard Cohen, Yom, Christophe Tarkos, et quelques bonus, juste après le titre « Dingue » de Dany dans la playlist de France Inter.
Je suis dingue, mais y a que toi qui me distingue. Oui, de tous les autres dingues. De toute façon, j'ai un flingue. Alors rangez vos seringues, où je monte à fond la bastringue. De Paris à Saint-Domingue, tu vois, je suis. Regardez ma vieille carlingue. Certains la trouvent un peu ringue. Mais ma carlingue, j'en suis dingue. Oui, même quand elle se déglingue. Tu vois, je suis. We'll be right back.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Hélène Giannichini.
Elle est fort obscène. J'étais, mettons, en posture embarrassante avec un ami qui... j'ai allumé une cigarette et il m'a dit « Tu allumes une cigarette en ce moment, dans ces circonstances, comme les putes d'Amsterdam ?» Et j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et puis, et non seulement je peux allumer une cigarette, mais je veux prendre une photographie. Et alors j'ai pris cette photographie. Et il faisait très chaud, ce que j'ai essayé d'indiquer par le... ce coloriage maladroit, à vrai dire. Maladroit. Mais comme quoi une photographie peut être personnellement pornographique tout en étant publiquement décente.
Extrait du court-métrage Les photos d'Alix de Jean Eustache, sorti en 1980, soit l'année de la mort du réalisateur. Là, on entend Alix Cléo Roubaud, que vous connaissez un petit peu, Hélène Giannichini.
Oui, j'ai même l'impression que je la connais très bien maintenant, c'est étrange.
Et elle commente des photographies devant le fils de Jean Eustache.
Oui, Boris Eustache, ses photographies à elle.
Votre premier livre est consacré à son œuvre, une image peut-être vraie, c'est au Seuil, avec une postface du poète et mathématicien Jacques Roubaud, ancien mari de l'artiste, à l'origine de la publication de ses journaux. Elle, elle est magnétique, elle est sombre, elle est morte à 31 ans. On pense qu'il s'agit d'une embolie pulmonaire, on n'en sera jamais sûr. Et Jacques Roubaud a mis à votre disposition les 652 photographies de son épouse.
Oui, c'était une aventure assez extraordinaire. Je commençais un travail universitaire. J'ai d'abord travaillé sur la place de la photographie dans l'œuvre de Jacques Roubaud. J'ai découvert Alix Cléo Roubaud comme ça. J'ai commandé son journal qui était épuisé à l'époque. Il a été retiré en 2009. Il est venu du Canada. Il a mis 2 mois à venir. Et j'ai découvert ces images et j'étais quand même assez scotchée, en fait, parce que j'ai découvert. Et donc, j'ai écrit un article très court pour une revue sur le travail d'Alix Cléo Roubaud. J'ai rencontré Jacques Roubaud à cette occasion et quelques mois plus tard, il m'a dit « Ça vous dit de vous occuper de cette œuvre ?» Et j'ai dit « Bon, pourquoi pas ?» J'avais 22 ou 23 ans et on s'est retrouvés 2 semaines après dans un bar. Il m'a donné un cabas rempli de photos. Et je suis rentrée chez moi avec 600 photographies. J'y vais dans un tout petit appartement et j'ai tout étalé absolument partout, sur le sol, sur mon lit, sur la commode, sur la table. Et je pense que beaucoup de choses ont commencé à ce moment-là pour moi. Le rapport avec les images, ils ont été déjà là, avec l'écriture était déjà là, mais quand même, Alix Cléo Roubaud, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, même si elle était morte, et qui m'a donné aussi énormément de choses. Et je me suis occupée de son œuvre, et je me rappelle d'un vertige presque difficile parfois. Qu'est-ce que ça fait quand on a toutes les photographies de quelqu'un, mais après j'ai eu ses lettres, les lettres qu'elle a écrites parce qu'elle gardait un double, les lettres qu'elle a reçues. Puis j'ai essayé de retrouver ses amis, ses amants, les gens dont elle parle dans le journal qui m'ont parlé d'elle. Et j'avais l'impression d'avoir comme une vision à 360 en fait d'Alix Cléo Roubaud, ce qu'elle pouvait penser des gens, ce que les gens pensaient d'elle. Parfois ils ne se l'étaient pas dit d'ailleurs. Et donc j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années.
Il y a quelque chose de très joli justement dans votre livre, Hélène Giannichini, dans Une image peut-être vraie, Alix Cléo Roubaud. C'est que dedans... Vous dites, à plusieurs moments, les gens essayent de la circonscrire, justement, essayent de dire « elle était comme ci, elle était comme ça ». Et vous dites « finalement, c'est pas ça qui m'intéresse, les gens peuvent la qualifier comme ils veulent ». Et vous faites une page, en plein milieu du livre, avec tous les adjectifs mis en de façon chaotique sur la page, de tout ce qu'on vous a dit sur elle, finalement. Puis il y a des choses qui se contredisent, et on voit à quel point l'identité, ça n'existe pas, finalement.
Oui, et les contradictions étaient amusantes. Et ça, c'est, j'avais l'intuition de ça, qui s'est confirmé après avec des morts plus proches, que j'avais connues vivants, disons. Je crois qu'il ne faut pas circonscrire les morts. Quand les gens meurent, je pense qu'il faut essayer le plus possible de ne pas les ventriloquer ou de ne pas dire que c'est terminé, que donc on peut être extrêmement affirmatif. Moins on est affirmatif, plus les gens continuent en fait, de vivre un peu ou d'exister à leur manière.
Dans la vidéo que vous avez choisie, Hélène Giannichini, les photos d'Alix, c'est assez amusant. Alors, on voit qu'elle a une aura sombre, hein, et on imagine plein de corbeaux comme ça autour d'elle, un peu comme Barbara, elle est très sombre. Elle a beaucoup de charisme, et puis elle a aussi une fantaisie, une certaine préciosité. Par exemple, j'ai noté cette phrase, « Oui, je voulais montrer une orthogonalité qui n'est pas du tout anglaise, mais qui l'est, pourquoi pas ?» Et
puis quelque chose se passe au fur et à mesure du film que je vous laisse raconter aux auditeurs, quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite.
Oui, et qui est, enfin, la première fois, après je vais expliquer, mais la première fois, enfin, une des premières fois où j'ai vu ce film sur un grand écran, il y avait Jacques Roubaud à côté de moi. Et donc tout le monde était très inquiet et observait un silence plein de déférence, disant le pauvre, c'est sa femme défunte qu'on voit à l'écran. Et Jacques Roubaud a eu un fou rire quasiment tout le film. Et c'était très beau ce moment. Ce qu'elle commande, ses photographies, Alix Cléo Roubaud. Et au fur et à mesure de ce court-métrage, il y a un décalage entre ce qu'elle dit et ce que l'on voit. Mais on met un peu de temps à s'en rendre compte. Ça glisse doucement, donc à un moment, on voit deux chaussures, elle dit qu'elle est dans un pub avec un ami. Et ce qui est très drôle, c'est que pour l'avoir montré, par exemple, dans l'exposition à la Bibliothèque Nationale de France, le premier réflexe des gens, c'est de se dire « Bah oui, ça doit être une métaphore ». Donc ils regardent les chaussures en se disant « Mais pourquoi pas, finalement, l'autoportrait, la chaussure, la
c'est
mine ?»
C'est vrai, c'est ce que je me suis dit.
Et il y a un oreiller, elle dit que c'est son corps glorieux. Et c'est extrêmement troublant, et c'est extrêmement malicieux aussi, elle se moque un peu de nous. Et c'est quelqu'un de très noir, Alix Cléo Roubaud, mais j'aimais bien, avec ce film, découvrir sa part de lumière et d'humour
oui,
malicieux.
De facétie.
Oui.
Le coucher de soleil sur Fès et on voit l'intérieur d'une chambre.
Et
elle dit, bah, vous voyez bien. Oui. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il va y avoir une exposition, Hélène Giannichini, bientôt.
Oui, il y a une exposition à la librairie Yvon Lambert qui ouvre le 8 octobre. C'est l'artiste Dominique González-Forster qui a imaginé une chambre pour accueillir les œuvres d'Alix Cléo Roubaud.
Le livre est un livre de deuil, c'est-à-dire qu'il est composé sur la disparition. La disparition et l'interrogation que cette disparition pose n'est pas celle de la survie. Je n'appartiens à aucune religion, aucune des religions reconnues dans le monde. Je suis ce qu'on appelle un agnostique, et donc pour moi, la mort est un arrêt. Et donc en fait, simplement, dans ce livre, quand je compose ces poèmes, j'évoque la mémoire de la personne disparue, et donc cette mise en évidence de certains moments du passé ne fait pas revivre, mais donne à voir la personne qui a disparu.
C'est justement le poète et mathématicien Jacques Roubaud qu'on entend au micro de Laure Adler dans Hors Champ, diffusé sur France Culture en 2009. Hélène Giannichini, vous avez choisi un vers du poème Portrait en méditation 5 du recueil Quelque chose noir, paru en 86. Je crois que c'est ce recueil qui vous a donné envie de vous pencher sur l'œuvre d'Alix Cléo Roubaud. Et c'est en tout cas ce vers que vous avez choisi pour l'émission qui m'a fait choisir moi de parler au début de l'émission des embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire de Lamartine selon Flaubert. Vous avez choisi ce vers, la poésie du coucher de soleil à vomir. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce vers ?
Ben c'est un talisman un peu pour moi. Je le trouve à la fois admirable et drôle et dur. Jacques Roubaud écrit ce recueil Quelque chose noir qui paraît 2 ans après la mort de son épouse. C'est une dévastation. Et il arrive à faire une chose extraordinaire, c'est d'écrire un recueil de deuil sans pathos et en déjouant un certain lyrisme. Ce qui en fait un recueil extraordinaire. Enfin, c'est une œuvre littéraire extraordinaire et bouleversante. Il écrit au plus près de ce qu'est une expérience du deuil. Et il le dit d'ailleurs, il n'écrit pas, il rompt avec toute cette tradition, par exemple, un peu du tombeau poétique. Il ne fait pas revivre. Enfin, c'est très lucide, en fait, comme constat. Et c'est très beau. Et quand il dit « La poésie du coucher de soleil à vomir », il y a deux choses, pour moi, dans ce vers, il y a d'abord une charge contre l'utilisation du terme de poésie. Quand on dit « Ah oui, un arbre dans le vent, c'est poétique. Un chat qui marche, c'est poétique. Finalement, la poésie est partout. » Non.
On a prostitué la poésie.
Clairement. Et la poésie, c'est quelque chose de très sérieux et très aride. Donc, il faudrait l'utiliser justement. Et ensuite, le coucher de soleil, écrire le coucher de soleil. On voit bien ce que ça peut être, un vers de coucher de soleil, un peu dégoulinant et plein d'emphase. On ne fait pas ça.
On pourrait parler de beauté, tout simplement, pour le coucher de soleil.
Oui, ou alors on peut regarder le coucher de soleil et puis écrire autre chose.
Ne me dites pas que la différence sexuelle n'est pas cruciale dans l'explication de la structure de l'appareil psychique en psychoanalyse. tout l'édifice freudien est pensé à partir de la position de la masculinité patriarcale, du corps masculin hétérosexuel, compris comme un corps avec pénis érectile, pénétrant et éjaculant. C'est pourquoi les femmes en psychoanalyse, ces aliments étranges entre les fleurs, avec utérus reproducteur et clitoris, sont toujours et encore un problème. C'est pourquoi vous avez besoin encore en 2019 d'une journée pour parler des femmes en psychoanalyse.
Extrait de la conférence donnée par le penseur Paul Preciado lors des journées de la cause freudienne en novembre 2019. Le son est très mauvais, parce que je pense que c'est une vidéo pirate, oui. Puisqu'on entend le type qui filme dire « Bravo !» très près de la caméra. Et on peut la voir sur Internet d'ailleurs, comme les photos d'Alix, de Jean Eustache, dont on parlait tout à l'heure. La pensée de Paul B. Preciado, pour vous, Hélène Giannichini, c'est une pensée de lutte et c'est surtout un appui.
Oui, cette conférence qu'il a donnée aux journées de la cause freudienne, bon, quand même, c'est pas rien.
Non.
C'est-à-dire qu'un philosophe, un homme trans, s'assoit face à des centaines de psychanalystes et, en fait, fait une conférence qui est une charge, mais pas que contre la psychanalyse et surtout contre les fondements de la psychanalyse qui sont, disons, l'idée qu'il y a une binarité sexuelle, il y a les hommes et les femmes. Après cette conférence, il a publié un livre, en fait, qui est la conférence en entier, qui est « Je suis un monstre qui vous parle », où à la fin, en fait, il n'est pas contre la psychanalyse, au contraire, il invite les psychanalystes peut-être à être un peu plus dans le présent ou à repenser peut-être cette institution qui est désormais la psychanalyse. Et bon, c'était un événement, c'est une vidéo pirate. Je trouve qu'on n'a finalement pas tant de moments que ça où on a l'impression de vivre quelque chose de notre époque, c'est-à-dire une pensée émerge qui est éminemment au présent. On peut émettre des critiques et des nuances, mais moi je trouve que dans cette façon qu'a Paul Preciado de se confronter à son époque, à son siècle, quelque chose qui est extrêmement enthousiasmant. Et ensuite, il s'inscrit dans une lignée d'une histoire même des féminismes. Enfin, il emporte avec lui Monique Wittig ou Judith Butler. Il continue cette histoire. Et cette histoire, pour moi, m'a donné des phrases qui ont changé ma vie.
Par exemple,
quand Monique Wittig dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Cette phrase dont on a beaucoup parlé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme, c'est pas une donnée naturelle, ça n'existe pas comme ça. Une femme, ça se construit au carrefour d'un certain nombre de dominations, et une des dominations, ça serait la domination masculine ou la domination du mari, surtout à l'époque à laquelle écrit Monique Wittig, et que donc en déjouant par exemple l'ordre du mariage, les lesbiennes échappent à ce qu'est être une femme, c'est-à-dire à une forme de soumission. Et c'est des pensées qui aident, je trouve, à être aujourd'hui une femme de manière beaucoup plus libre.
Paul Preciado propose de politiser l'inconscient, en fait, quand il est à cette conférence, et il parle de thérapie politique de votre institution, en s'adressant à tous les analystes de la salle. Et c'est vrai que cette pensée politique, il y a quelque chose qui m'a frappée, Hélène Giannichini, quand j'ai lu votre dernier livre, « Voir de ses propres yeux », c'est qu'on dirait finalement que ces inégalités œuvrent au-delà de la mort. Et je vous cite, parce que là je pense aux cadavres de femmes, je vous cite « Or, pendant des siècles, le corps des femmes, jusqu'à leur sexe, a été exploré, décrit et donc inventé par des hommes. On comprend un peu mieux l'obsession de la binarité qui parcourt encore les débats actuels. » Et c'est cette phrase que je trouve extraordinaire. « C'est en partant de leur propre corps que les anatomistes ont travaillé, cherchant à circonscrire ce qui, chez la femme, n'était pas eux. » Mais là, il y a toute la psychanalyse. « Ce qui, chez la femme, n'est pas eux. »
Bah oui, c'est... Enfin, quand on étudie l'anatomie, c'était assez fou de lire des phrases, par exemple, au XVIe siècle ou au XVe siècle, le clitoris est inventé. Alors moi, je me dis, comment
en fait,
ça?
On est déjà en négatif.
Oui, c'est ça. Et il y a des hommes qui, tout d'un coup, font des expériences et nomment un corps qui n'est pas le leur. Et ce qui fait que le corps des femmes, même médicalement, je veux dire, en sortant complètement d'un endroit, même, enfin, c'est politique, mais je veux dire, on peut aussi, c'est de la politique appliquée au domaine médical et scientifique, disons, c'est des hommes qui ont regardé et nommé notre corps. Et comment est-ce qu'on fait alors pour être sereinement à l'intérieur? Et ça explique la faiblesse des études sur le clitoris, par exemple, qui bon, bah, pour les anatomistes, c'est un peu compliqué, cette histoire. Donc comment font les femmes pour vivre avec leur corps quand toute une partie n'est pas étudiée, considérée comme mineure, ou coupable même? Et c'est de ça dont il faut se défaire, je crois.
En tout cas, je recommande la lecture de votre ouvrage. Voilà, vraiment, vraiment, sincèrement. Dans un instant, une autre femme va nous rejoindre, enfin un fantôme évidemment. Elle se considérait de sexe féminin et masculin. C'est Clarisse Lispector et c'est juste après un titre de Janelle Monáe, Turntables. The table about to turn. The table about to turn. The table about to turn. Yeah. I've been flipping through my timeline. Trying to get my mind right. My city cried out. I got to cool down, but I'm under pressure. Cooking with my Crisco. Look at what my fists go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations. Ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage. I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean. A different mission with a new dream. We kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. I said America, use a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Hélène Giannichini qui s'apprête à nous parler d'un ouvrage paru en 1969, Un apprentissage ou le livre des plaisirs de l'écrivain et journaliste brésilienne née en Ukraine, Clarisse Lispector, qui est d'ailleurs évoquée dans votre roman Voir de ses propres yeux. Et j'ai dit écrivain délibérément car elle ne souhaitait pas qu'on féminise le mot écrivain en portugais, bien qu'il existe au féminin. Vous, Hélène Giannichini, vous vous présentez comme écrivaine.
Oui. Bah, je pense que on n'est pas à la même époque. Je pense que la féminisation des noms a une fonction.
Ce livre, c'est une réflexion sur la douleur, sur la grâce. C'est une histoire d'amour un peu particulière, une quête initiatique où un certain Ulysse prépare une certaine Laurie à leur histoire d'amour tout en se préparant lui-même. Et je vous laisse prendre le relais, Hélène Giannichini.
Bah oui, c'est un livre extrêmement étrange, comme tous les livres de Clarisse Lispector. J'ai découvert son œuvre avec le livre qui s'appelle Le bâtisseur de ruines. Et je me rappelle de l'impression qu'a fait Clarisse Lispector sur moi. J'ai commencé à lire le livre et j'ai dû m'arrêter au bout de 10 pages parce que tout était tellement beau. C'était une intensité tellement soutenue que c'était presque insupportable. Et depuis, son œuvre, j'y reviens sans cesse. C'est un endroit où je viens parfois puiser des choses pour relancer ma propre écriture. C'est un endroit d'une pensée tellement singulière. Enfin, elle peut écrire un roman sur une femme qui va ouvrir un placard et un cafard dedans. Et c'est 300 pages là-dessus. Et cette histoire d'amour, en fait, est pleine d'attentes. Enfin, ça n'écrit pas l'amour, ça écrit tout ce qui est entre les moments de rencontre presque, avec des moments extrêmement beaux sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, essayer d'être en vie, où Laurie peut dire que le plus difficile c'est d'essayer de se surmonter elle-même, qu'elle le fait tous les jours et que c'est ça qui l'épuise. C'est une écriture vraiment exceptionnelle, cette écriture de Clarice Lispector.
Et d'ailleurs, ce que comprend la narratrice, pour rester dans la thématique de l'émission, Hélène Giannichini, c'est qu'au début, elle se rend compte que... Enfin, pas au début d'ailleurs, non, elle met beaucoup de temps à s'en rendre compte que son rapport au monde est un rapport douloureux. Elle n'est vivante que par l'entremise de la douleur. Et ce que lui propose cet homme qui ne veut pas consommer leur union tout de suite, c'est un parcours initiatique finalement vers la joie.
Oui, il a la figure du philosophe. Il est le philosophe dans l'histoire, et en même temps, en fait, on se rend compte que c'est elle qui a bien plus compris les choses que lui, et que la joie, elle l'a.
J'avais un peu envie de le gifler, je ne vous le cache pas. Hélène Giannichini, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait ?
Avec plaisir.
Donc un apprentissage, Clarice Lispector.
Nous n'avons pas accepté ce qu'on ne comprend pas parce que nous ne voulons pas passer pour des imbéciles. Nous avons amoncelé des choses et des sécurités par le fait de ne pas nous avoir l'un l'autre. Nous n'avons aucune joie qui n'ait été déjà cataloguée. Nous avons construit des cathédrales et nous sommes restés à l'extérieur, car ces cathédrales que nous avons construites de nos mains, nous craignons qu'elles ne soient des pièges. Nous ne nous sommes pas livrés à nous-mêmes, car ce serait le commencement d'une vie ample que nous redoutons. Nous avons évité de tomber à genoux devant le premier de nous qui, par amour, dirait « tu as peur ». Nous avons mis sur pied des associations et des clubs souriants où l'on se sert avec ou sans soda. Nous avons essayé de nous sauver, mais sans utiliser le mot « salut », pour ne pas avoir honte d'être innocent. Nous n'avons pas employé le mot « amour » afin de ne pas être obligé de reconnaître sa contexture de haine, d'amour, de jalousie et de tant d'autres sentiments contradictoires.
Pourquoi avoir choisi ce passage ?
Parce que je trouve extraordinaire de faire ça dans un roman. Cette liberté, tout d'un coup, de faire un moment comme ça extrêmement spéculatif, je dirais pas poétique pour pas vexer Jacques Roubaud, qui est presque un moment philosophique, en fait, de pure stase ou d'arrêt. C'est rare, en fait, qu'on se permette ça dans un moment où parfois on a tendance à vouloir être très efficace en littérature. Et ensuite, parce que moi, je suis toujours assez subjuguée par les gens qui pensent vraiment pas comme moi. Et Clarice Lispector, je trouve qu'elle pense extrêmement étrangement. Enfin, il y a quelque chose d'une altérité radicale chez cette femme et dans son écriture qui me fascine. Et dans ce genre de moment qui est traversé par une forme de désespoir, de foi aussi, il y a quelque chose qui m'est étranger et que je trouve bouleversant, du coup.
Quand on est plongé dans les textes de Lispector, il y a cette chose d'introspection qu'on retrouve dans certains textes de Virginia Woolf. Et il y a une typographie aussi qui peut dérouter. Je la souligne, Hélène Giannichini, parce qu'il y a plusieurs de vos remèdes dans lesquels on retrouve cette sorte de déconstruction et cette liberté totale, finalement, de narration. Tout à l'heure, on va parler de Christophe Tarkos, c'est un peu le cas aussi. Vous aimez cette déconstruction, cette liberté du texte, le fait que vous choisissez quand même des marginaux, des gens qui ne sont pas dans les attentes habituelles ou
oui,
ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Ben, je crois que c'est pas du tout ce que je fais, ce que j'écris, mais qu'un endroit de moi vient fondamentalement de la poésie. C'est l'endroit de la poésie contemporaine. Et donc de gens qui s'attaquent à la phrase, qui écrivent parfois des histoires, mais c'est finalement pas le centre de tout ça, qui pensent ce qu'est le langage et qui vont essayer des choses, casser la phrase, penser ce que c'est l'espace d'une page. Et c'est cet endroit-là où j'ai le plus de plaisir à lire, où ça me fait le plus penser, et aussi où je suis le plus émue, parce que parfois on a un rapport à cette poésie contemporaine un peu de défiance, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est hermétique, alors que pas du tout. Enfin, Tarkos, par exemple, c'est très drôle par moments, et Clarice Lispector, c'est très beau, il y a une forme de simplicité, mais j'aime leur liberté. Voilà, je trouve que c'est des textes libres.
Brahms, Souffle des statues, sonate pour clarinette et piano en mi bémol majeur pour introduire l'œuvre d'art choisie pour l'émission, Hélène Giannichini, une sculpture en marbre pentélique du 1er siècle avant Jésus-Christ, celle du patricien romain Togaed Barberini, à laquelle vous consacrez une page dans votre dernier livre. La rencontre avec cette statue a eu lieu dans un musée archéologique implanté dans une ancienne centrale thermique de Rome, la Centrale Montemartini. Pouvez-vous nous décrire cette statue ?
Bien, c'est un patricien romain, on ne peut plus classique, en toge, l'air très sérieux, avec des traits assez marqués. Il a une fossette au menton, il a le nez vraiment prononcé. Bon, là, jusque-là, rien de très étrange, mais il porte les têtes de son père et de son grand-père.
De chaque côté.
Et bon, à la fois, c'est d'un point de vue archéologique assez extraordinaire parce que on avait des traces écrites des imagos ou des imagines, c'est-à-dire ce qui donne le terme d'image vient étymologiquement de imago ou imagines au pluriel. Ce sont des masques qu'on coulait sur le visage des morts.
En cire.
Donc c'est d'abord une image, c'est quoi ? C'est l'empreinte du visage d'un mort, quand même, c'est pas rien. Et bon, moi, ça me fait complètement rêver parce que ces images étaient gardées par les Romains dans des châsses. Et donc, faut imaginer, bon, là, je dis ça de manière un peu anachronique, mais c'est comme si dans notre salon, par exemple, on ouvrait un placard et on avait les têtes de tous nos ancêtres. Enfin, on aurait un autre rapport à la mémoire. Et je suis un peu jalouse, je crois. J'aurais aimé avoir ça. Je pense que nous, on a un rapport à la platitude, à l'objet photographique. Qu'est-ce que ça ferait si on pouvait toucher le visage de nos morts ? Enfin, notre vie serait complètement différente. Et donc lui, il est là avec, il nous montre, enfin, du coup, d'un point de vue archéologique, c'est une sculpture extrêmement importante parce qu'elle prouve que ces imagines ont existé. Et c'est très fort parce que ces têtes lui ressemblent. C'est pas la même tête trois fois, mais on voit vraiment qu'ils sont de la même famille. Et c'est très beau et c'est quelque chose que... Voilà, dans le livre, je m'imagine le faire, c'est-à-dire prendre les têtes de deux des personnes que j'aime le plus et puis pouvoir, je sais pas, me promener avec eux, par exemple.
Je suis sûre que c'est possible, avec un peu de patience et de tolérance. On voudrait davantage de sombreur, Hélène Giannichini. Heureusement, l'auteur de votre premier antidote nous la donne.
Thank you. in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Sur France Inter avec Hélène Giannichini qui vient de nous faire entendre un morceau de 2016, You Want It Darker de Leonard Cohen, puisque cette émission est sponsorisée par La Mort. Et pourquoi ce choix? C'est dans cette chanson, Leonard Cohen s'offre finalement au Seigneur, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, et dit je suis prêt, tu peux me prendre, je suis prêt.
Bah, c'est exactement pour ça, enfin, cette phrase, c'est le dernier album de Leonard Cohen, il va mourir, il le sait, et en fait il dit qu'il est prêt. Et simplement pouvoir dire « I'm ready, my lord », je trouve ça très fort.
Êtes-vous prête à mourir, Hélène Giannichini ?
Non, pas encore.
Non. Bonne réponse. Bon, alors la grande faucheuse voulait prendre congé de nous, mais on a besoin d'elle, évidemment, pour le morceau suivant.
Kaddish for Superman de Yom and the Wonder Rabbis. Le Kaddish, c'est la prière mortuaire dans le judaïsme. Et vous qui écrivez, Hélène Giannichini, dans Voir de ses propres yeux, le monde est devenu pauvre en invisible, que vous évoque ce morceau?
C'est un des morceaux avec lequel j'ai le plus écrit le livre. Yom produit, c'est certainement un des musiciens que je préfère, qui fait la musique qui me permet le plus de descendre à l'endroit de concentration et de solitude qui doit être le mien pour travailler. Et cette chanson s'appelle Kaddish pour Superman. Et c'est une chanson qui, dans ma tête, est adressée à l'un de mes morts. Et le Kaddish, c'est aussi la prière dite par les endeuillés. Et c'est une montée continue, comme un cri, complètement déchirant. Mais comme ça s'arrête pas, finalement, ça devient une forme de transe et il y a quelque chose qui exulte dans cette musique. Et ça, à chaque fois, ça me fait presque exploser le cœur, quoi. C'est comme retraverser un deuil, l'espace de ce morceau-là.
Mais ce n'est pas douloureux. Ou ça l'est, mais nécessaire.
Ça l'est, mais on traverse, en fait. Yom, il nous permet de traverser ça. La douleur, elle est à neuf au début du morceau, mais on la dépasse à chaque fois par cette profération. Enfin, je vois dans la clarinette, c'est un virtuose de la clarinette, Yom, une forme de profération qui sauve, en fait. On va, c'est comme si on conduisait et puis on dépasse la tristesse, on va au-delà et il y a autre chose. C'est un morceau qui est bouleversant.
Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue.
Je gonfle, j'ai un problème, voilà, récité en 98 par le poète Christophe Tarkos, qui a une poésie un peu hypnotique à force de répétitions, de boucles, de ressassements. Il y a quelque chose un peu de Beckett, pas vraiment, mais un petit peu, parce qu'on est français, on aime mettre des étiquettes, voilà. Et il y a de l'humour aussi beaucoup chez lui, Hélène Giannichini. Vous aviez choisi ce poème ou Le bonhomme de merde?
Oui, qui sont deux performances de Tarkos qu'on peut voir sur Internet, que je trouve extrêmement drôles. Et Tarkos fait cette chose difficile d'être très drôle. Enfin, moi, ça me fait rire, donc c'est un remède à la mélancolie très simple pour ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui a très intensément réfléchi à ce qu'était le langage. Et qu'est-ce que ça voulait dire qu'écrire, en fait? Et qu'est-ce que c'était qu'un mot? Ou ce qu'il a appelé la patte mot, c'est-à-dire cette chose qui bouge avec laquelle on fait des phrases. Et Tarkos, c'est à les deux, quoi, le rire et la pensée.
Alors, pour ceux qui voudraient découvrir son travail, on peut l'entendre et le voir sur l'enregistré, un DVD, un CD et 506 pages qui rassemblent ses performances, improvisations et lectures. C'est aux éditions POL. Il y a des remèdes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, Hélène Giannichini, mais on les mettra tous sur le site internet pour que les auditeurs puissent se les approprier. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Votre dernier ouvrage, Voir de ses propres yeux, est paru en janvier dernier aux éditions du Seuil, tout comme le précédent, une image peut-être vraie. Chers auditeurs, la programmation musicale et les remèdes sont, comme toujours, sur le site de l'émission. Je profite de cette fin d'émission pour être un peu vulgaire et vous dire que je viens de publier, mon Dieu, ça me gêne, un essai sur le peintre Léon Spilliart aux éditions Autrement, voilà pour la réclame. Sachez qu'elle est aussi intéressée qu'altruiste, car Spilliart est un remède épatant. En tout cas, j'espère que votre âme a l'engouement existentiel d'un pamplemousse vaudou. Et je vous retrouve, quoi qu'il arrive, dimanche prochain à 10h10.